Au début de l'année 1995, on a commencé à compter nos morts, comme des mômes sur leurs doigts dépliant innocemment l'éventail du malheur. On évoquait le cancer de l'un, la pleurésie d'un autre, le mésothéliome du dernier qu'on avait enterré, l'asbestose du plus grand nombre. L'évolution de nos symptômes, la courbe clinique de nos examens nous rendaient irritables. Ceux qui n'étaient pas touchés se demandaient combien de temps encore ils seraient épargnés. Ils fouillaient leur mémoire, déroulaient leurs années de travail, passaient au peigne fin les lieux d'exposition à la fibre. Ils devenaient leurs propres investigateurs, conduisaient des enquêtes sur eux-mêmes, mais ne trouvaient rien à se mettre sous la dent, ni preuve, ni mobile. Ils ressemblaient à ces miraculés qui n'avaient jamais cru au divin, mais cherchaient des réponses en levant les yeux. Tous, atteints ou pas par la maladie, nous rentrions dans ce temps d'anxiété que désormais nous n'allions plus quitter. Il faut dire que la dame blanche n'avait rien d'une compagne ordinaire. Elle ne pénétrait pas simplement les corps, elle prenait possession des vies. Il ne se passait pas un jour sans qu'elle vous rappelât son souvenir. On ne la voyait plus, on ne la respirait plus, sa poudre ne retombait plus en pluie au-dessus de nos têtes. Mais son invisibilité rendait encore plus pesante sa présence. Elle était devenue la part malsaine de nos êtres. Elle engorgeait nos bronches, envahissait nos alvéoles pulmonaires, épaississait notre plèvre. De notre respiration, elle faisait son instrument, sorte d'aérophone dont elle jouait à sa guise. Nous soufflions à son rythme, toussions sous son contrôle, raclions nos gorges à sa volonté. Nous ne savions rien de ce qu'elle nous promettait, le savait-elle davantage ? Elle cheminait en nous comme une bête désorientée, allait où se nourrir, s'arrêtait où se multiplier, dévorait à sa faim, tuait quand elle le décidait. Et si elle finissait par s'endormir, laissait nos mécaniques biologiques en sous-régime, tels des moteurs usés que plus rien ne pourrait faire revenir à leur état d'origine. Nous restions sous contrôle. Les insuffisances respiratoires de Barbe auscultées à la loupe. Les plaques pleurales de Manchefer surveillées comme le lait sur le feu. Les images de mes alvéoles pulmonaires scrutées sous la résonance magnétique. J'avais revu le carabin à plusieurs reprises. Le bilan demeurait stationnaire. Chaque fois, j'avais l'impression d'être un de ces corps de fonte pour lesquels je mesurais régulièrement du temps des chantiers l'évolution des constantes dans la machine. Depuis la mort de Cochise, la fibre avait retissé des liens entre nous. On se rencontrait chaque semaine. Le besoin de se retrouver était bien plus grand que la nécessité. Quelque chose à combler sur lequel nous ne savions mettre des mots, un retard à rattraper, peut-être plus sûrement un terrain que nous avions laissé en jachère et que nous souhaitions à nouveau cultiver. L'amitié était sans doute le nom qui le qualifiait le mieux. Quand l'un de nous devait manquer à l'appel, il prévenait aussitôt. Si le silence se prolongeait, nous allions aux nouvelles. De la fin tragique de notre camarade, nous ne parlions jamais, pas plus qu'autrefois nous ne l'avions fait de son départ. Chacun de nous avait gardé en mémoire la vision de Cochise avant la fermeture du cercueil et la pose des scellés, dans cette chambre funéraire où la peine nous corsetait. Cheveux raides sur sa figure creuse, teint cireux, paupières closes, lèvres comme couturées, muscles que l'on devinait mollasses sous ses vêtements de défunt, toute force éteinte, lui à peine reconnaissable. Peut-être était-ce cette image, à jamais fixée dans un coin de notre tête, qui nous rendait paradoxalement moins vulnérables. Nous nous sentions compagnons d'une même tragédie, déterminés à marcher du même pas, main dans la main, pour gagner la reconnaissance qu'on nous devait. Non pas celle qu'on nous promettait en espèces sonnantes et trébuchantes au fil des rendez-vous administratifs et médicaux, mais celle que Barbe avait si justement qualifiée de « faute inexcusable » de la part de ceux qui nous avaient volontairement maintenus dans l'ignorance. Nous n'étions pas les seuls à la réclamer.